vérité, est-ce que la vérité est une chose relative? Ce qui apparaît aux gens être une vérité pour eux, c'est ce qu'ils appellent la vérité. À ce moment-là, on ne dira pas la vérité, on dira c'est une opinion. Donc toutes les opinions, chacun a une opinion différente de l'autre. Il a des idées différentes. Nous avons des idées sur la réalité. Bon, dire qu'il y a plusieurs réalités quand je présente une seule réalité, là, ça va pas. Il y a une seule réalité. Par exemple, je vais dire, ben voilà, je suis un être humain, pas, je suis une personne humaine. Ça, c'est une réalité. Il n'y a pas deux réalités, il n'y en a qu'une. Je suis un homme. Je m'appelle Patrick. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas deux réalités. Vous n'allez pas dire non, c'est pas vrai, c'est pas un homme, c'est pas Patrick, c'est une autre réalité à mon avis. Si tu dis ça, on se planque à l'asile. Il y a une seule réalité. La réalité, elle est une. Maintenant, la manière dont chacun va recevoir cette réalité sera différente, c'est bien évident. C'est bien évident parce que, à cause, non pas de l'opération, comme vous dites ici, du jugement humain, mais en raison de l'appréhension. Donc c'est en raison de la manière psychique de recevoir. La réalité, je la connais. Il y a une seule réalité, elle pénètre en moi et je l'interprète. Donc c'est l'interprétation qui va être subjective, qui va donner une connotation différente pour chacun. Ça, d'accord? Mais attention, tout le problème à ce moment-là, c'est de voir l'adéquation. Donc qu'est-ce que la vérité? La vérité, donc vous avez ici une réalité, le réel, une réalité existante, et puis vous avez ici une intelligence qui là et qui essaye de regarder, d'appréhender, de recevoir une réalité. Et ce qu'on appelle la vérité, donc la réalité, c'est ça? Et la vérité, c'est quoi? La vérité, hein? C'est pas parce qu'une intelligence s'approche d'une réalité, par exemple, je m'approche de, je sais pas moi, d'une fleur, ou bien du cosmos, ou bien simplement d'une opinion. Quelqu'un me dit, voilà, Bouddha et le Christ et Jésus, c'est la même chose. Voilà, Jésus et Bouddha, c'est la même chose. Voilà une affirmation qui se présente à vous. Vous la recevez d'une certaine manière. Et vous l'entendez, vous approchez d'elle et vous la recevez en vous d'une certaine manière. Bon, vous pouvez l'approcher de manière. Vous pouvez l'entendre de manière vraie et vous pouvez l'entendre de manière fausse. Tu comprends? La manière de le recevoir fait qu'il y a quand même une transformation qui se fait. La réalité est transformée, c'est ce qu'on appelle l'abstraction. Je vais abstraire de la réalité qui m'est donnée, je vais abstraire la partie un peu extérieure pour essayer d'en saisir la substance. Mais je peux très bien, si je ne suis pas très intelligent, ne pas faire l'abstraction et rentrer et assimiler non pas la substance de la réalité, ce par quoi elle est substantiellement cette réalité, par ce par quoi cette réalité subsiste, elle est individuée dans cette réalité-là, mais plus comme je ne suis pas très intelligent, je ne suis pas capable d'aller intelligent, intus legere, je suis capable d'aller jusqu'à la substance. Du coup, c'est la substance de cette chose que j'assimile. C'est ça l'abstraction. J'enlève du coup, m'excuse du schéma, parce que j'enlève du coup les accidents. Qui est accidentel, je ne prends que ce qui est substantiel. C'est ça l'abstraction. L'abstraction, c'est je garde en moi la substance de la chose. J'abstrais ce qui est substantiel et j'enlève les accidents. J'enlève ce qui est périphérique, ce qui est extérieur. Si je ne suis pas très intelligent, je ne sais pas faire l'abstraction, donc je mange tout, je ne perçois pas la substance, je garde en moi les accidents. Les accidents sont variés. Et c'est à cause de la variété des accidents qu'il peut y avoir diversité d'opinions. Et c'est à cause de ça qu'il peut y avoir vérité ou erreur. Et ce qu'on appelle la vérité, c'est l'adéquation entre l'intelligence et la réalité. C'est qu'il y a une adéquation. C'est que ce que je porte dans mon intelligence, dans sa substance, que j'abstrais, ça correspond à la substance de la réalité que j'observe. C'est ça la vérité. Mais tout le monde n'est pas intelligent. Et comme tout le monde ne sait pas se servir de son intelligence, à cause de ça, son intelligence, il ne s'agit pas d'avoir fait des études. Hein. Ce n'est pas les études qui vous rendent intelligent, au contraire. Donc, faire attention. Hein. Eh oui, non, il faut faire très attention à ça. Alors, mais je sais que tout de suite, je vois la substance de l'autre. Les accidents, ça ne m'intéresse pas. Tout de suite, ce que je perçois, c'est l'être des choses, voyez. Alors, la vérité, c'est ce qui fait que mon intelligence a reçu de la réalité sa substance. Et la substance, elle est une. Si la réalité est une, la substance, elle est une. D'accord? Voilà, alors je reprends pour voir. Mais ça, il faudrait qu'un jour, que peut-être je reconnais qu'il faudrait distinguer les différentes opérations d'intelligence que sont, bon, l'assimilation, le fantasme, hein, la conceptualisation, l'appréhension et le jugement. Mais ça, je reconnais que ça irait beaucoup trop loin d'aller là-dedans. Mais quand l'appréhension, c'est facile, c'est, vous voyez pour la première fois un dinosaure, dit, bon, bah tiens, c'est un dinosaure, c'est extraordinaire cette bête. Bon. Hein? Non, mais vous voyez pour la première fois un moine, c'est encore plus monstrueux qu'un dinosaure. Pour la première fois, vous voyez un moine, bon, ben, c'est extraordinaire cette histoire, c'est monstrueux. C'est grisâtre, c'est gros, c'est... Bon, alors... Alors, vous appréhendez la chose. Et du coup, vous comprenez, le problème, c'est que vous prenez globalement. Si vous n'êtes pas capable de saisir la substance de celui que vous voyez pour la première fois, vous vous arrêtez à ce que vous constatez extérieurement. Et donc, finalement, l'imaginaire prend une part énorme dans l'appréhension. L'appréhension, vous voyez, c'est votre raison qui va travailler. C'est un peu comme quelque chose qui rentre dans une couche de cire. Vous voyez, un cachet qui va dans une couche de cire. Vous recevez ça et vous portez l'autre, mais vous n'avez pas vraiment abstrait. Vous n'avez pas fait l'induction. Vous n'avez pas pu saisir la réalité dans sa profondeur. Vous voyez? Bon. Mais justement, on fait de la métaphysique pour ça. Pour s'abstraire, pour sortir de cette habitude qui est néfaste. Pour notre dimension contemplative, elle vit de la vérité. Vous voyez? Tandis que si on ne vit pas de la vérité, c'est-à-dire si notre intelligence est renfermée dans la subjectivité, notamment la subjectivité, ce qu'on appelle, vous savez, transcendantale, subjectivité, l'affectivité, ce que je ressens, mes impressions, mes opinions et mes idées, alors à ce moment-là, je n'atteindrai jamais la vérité. Jamais le jugement d'existence, pour moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que le jugement. J'appréhende les choses. Jugement, la différence entre le jugement et l'appréhension. J'appréhende les choses, mais l'appréhension, c'est subjectif. Donc, ce sera différent. Mon appréhension sera toujours différente de la tienne et de la tienne. À ce moment-là, chacun sa vérité. Non, ce n'est pas chacun sa vérité. Chacun sa manière d'appréhender les choses. Au niveau de la raison. Et la manière, donc, de l'interpréter subjectivement. Mais j'ai une manière objective, contemplative, où ce n'est pas moi qui commande ce que j'ai dans la tête, mais c'est la réalité qui commande ce que je reçois. C'est la réalité que je reçois. À ce moment-là, la réalité est une. C'est pour ça qu'il y a une seule vérité. Par exemple, si je vois un homme, si je veux faire une abstraction sommaire, je dis c'est un homme. J'ai fait une abstraction. Et si c'est Bernard qui le fait, même s'il a une appréhension différente, s'il fait l'abstraction, il aboutit à homme aussi. Il n'a rien à faire. Et si c'est un dinosaure, il ne dira pas homme. Ça, c'est la... Oui. Alors justement, mais ça, c'est un petit peu le sujet de cette année. C'est que le problème de la métaphysique, de l'appréhension de la vérité, de l'approche de la vérité, c'est que pour approcher la vérité, il faut pouvoir, un, réveiller dans mon intelligence le point de vue du jugement, deux, à l'intérieur du jugement, pouvoir induire. C'est l'intelligence qui me permet de faire un jugement d'existence. C'est par l'intelligence contemplative que je peux atteindre la substance d'une chose. Intus legere. Je lis cette réalité, non pas d'extérieur, mais de l'intérieur. Et je saisis l'être de cette chose. La substance de cette chose, pas les accidents. Ça, c'est le jugement qui me permet. D'accord ? Mais, attention, une fois que je l'ai saisi, je le saisis quand même avec les accidents, que je le veuille ou non. Dans mon intelligence, je reçois tout. Il faut donc abstraire. C'est mon intelligence qui, dans le jugement d'existence, va abstraire la substance des accidents. Et ça, c'est l'induction qui le permet. Mais l'opération inductive, on va le faire, puisque c'est notre sujet. C'est la question de, justement, comment est-ce qu'on va faire pour faire une induction à partir du jugement d'existence. Mais pour l'instant, nous en sommes au jugement d'existence, on va vers l'induction et on regarde l'interrogation. Bon, et ben par exemple, tu as un chandail, tu es roux, tu as été frisé, etc. Je sais pas, moi, tu parles chinois, alors que moi je parle hébreu. Tout ça, c'est accidentel. Hein? Tu as des défauts, tu as des qualités. Ça, c'est accidentel. D'accord? Tu as une certaine quantité, tu as des qualités, et même des vertus. Tu peux avoir des vertus. Mais je ne saisis pas encore la substance, je ne saisis pas en toi la personne, c'est-à-dire ce qui unifie le corps, l'âme et l'esprit. D'accord ? Tous les accidents, c'est ce qui fait ce que tu as, ce qui rayonne de toi, etc. Mais ce n'est pas la substance, d'accord ? Ce n'est pas l'être même. Par contre, si je te touche, si je vois que tu existes, je touche en toi le fait que tu existes, l'être, ah, je touche quelque chose d'autre. Ça va ? Alors, ça n'est jamais séparé, puisque vous saisissez, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, vous ne saisissez jamais séparé. Vous le distinguez. Et c'est cette distinction que va faire l'induction. Vous le distinguez déjà dans le jugement, mais l'induction va l'abstraire, va l'induire. C'est être conduit à l'intérieur de la substance, de l'être de la chose. C'est ce qu'on va regarder, justement. Hein? Comment est-ce qu'on peut essayer de faire pour s'approcher de ça. Voilà. Mais pour l'instant... vous voyez bien que je vais essayer de reformuler... Oui, je vois que vous vouliez continuer à dire quelque chose. D'accord. Alors, une personne m'a déclaré la vérité relative. Comprenez, la vérité relative. Moi, je veux bien, hein, puisqu'on y est dans... Là, j'ai lu un livre d'un espèce de gourou qui fait fureur, là, qui s'appelle, je ne sais plus comment... comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Bon, enfin, peu importe, mais... Et il est très très sympathique. Et il dit, la vérité, c'est la relation consciente. C'est la relativité consciente. La vérité relative pour lui. C'est très extraordinaire de dire ça. La vérité, c'est dans la relation consciente. Donc, pour lui, la vérité, c'est je suis en relation avec toi. Mais je suis en relation, mon je suis est en relation avec ton je suis. Donc, mon je suis, ce n'est pas la réalité ni la vérité. Et ma manière de percevoir mon je suis n'est pas vraie. La manière de percevoir ton je suis n'est pas vraie, elle ne correspond pas à une réalité. Mais par contre, si mon je suis est en relation avec ton je suis, c'est cette relation-là qui est vérité. Oh, et pratiquement, c'est nouvel âge, hein, ça, hein. Nouvel âge, tout s'est passé, tout fonctionne sur la relation. Le petit véhicule, le grand véhicule, etc. Tout ça, c'est relation. Toi, tu dois disparaître. Tu es non-être. Yvon Amar, qui s'appelle extraordinaire, son truc. Et il commente les 10 commandements de Dieu en fonction de ça. C'est extraordinaire, son truc. Alors, en faisant ça, voyez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il finit par aboutir à ce fait que, et c'est très moderne, hein, vous allez voir, ça se répand comme traînée de poudre, cette histoire-là. Si c'est la relation consciente qui est la vérité, la réalité, c'est ça qui est Dieu, c'est ça qui est la Torah, c'est ça qui est la présence de Dieu concrète, réalisée. Si c'est ça, à partir de nous, les hommes, entre eux, seront dans des relations constantes, chacun les uns avec les autres, on aura trouvé et mis à nu la vérité tout entière. Et finalement, l'humanité mise à nu dans la relation consciente se dévoilera et se révélera comme étant le Dieu de la création, le Dieu de la révélation, le Dieu de la Torah, le Dieu de l'unité, le Dieu de la rédemption absolue. Et finalement, c'est l'humanité qui est Dieu. Oui. Bon, j'explique rapidement parce que j'ai pas le temps de trop expliciter cette histoire, mais vous comprenez que ça, c'est une laïcisation de la pensée occidentale théologique. Pourquoi ? Parce que effectivement, la relation consciente qui fait que Dieu est Dieu, c'est la théologie occidentale. Dans la théologie occidentale. Vous voyez, mais ça, c'est laïcisé en philosophie, ça devient faux. C'est extraordinaire. Je ne crois plus en la très sainte Trinité. Vous voyez ? Et la très sainte Trinité, c'est quoi ? C'est le fait qu'il y a une relation entre Dieu qui contemple et Dieu qui est contemplé. Quand Dieu contemple, c'est le Père. Quand Dieu est contemplé, c'est une autre relation, c'est le Fils. Et ces deux relations sont dans une seule relation. Donc elles s'unissent toutes les deux, ces deux relations, elles font un poids qui est un poids divin et qui est un poids absolu qui aboutit donc au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le poids qui dépend de l'unité du Père et du Fils. Les trois personnes de la très sainte Trinité sont des relations conscientes subsistantes. Et incréé, ça c'est la foi. L'être premier, il y a un seul être premier, il y a un seul Dieu, il est constitué en trois hypostases, et ces trois hypostases sont des relations subsistantes, relations conscientes. Et même le Nouvel Âge, qu'est-ce qu'il fait avec ces grands penseurs? Parce que les gars, ce type-là, il reçoit des gens qui viennent partout, d'Asie, d'Angleterre, des États-Unis, d'Australie, pour ses sessions. Extraordinaire. À partir du moment où je me coupe, ça le nouvel âge, de Dieu, dans son intimité, vous voyez, divine, dans sa personne, dans son mystère personnel, je garde ce schème, puisqu'il est inscrit au fond de nous, je garde ce schème que l'être absolu, c'est une suite d'Heidegger, ça, quelque part. L'être absolu, je le sais quelque part, au fond de moi, que c'est des relations subsistantes, des relations constantes qui constituent les personnes divines dans l'être absolu et incréé. Ce n'est pas mon cas à moi. Moi, je ne suis pas moi parce que je suis en relation avec toi. Même si je n'étais pas en relation avec toi, j'existe quand même. Pas de peau, mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Si le Père n'existe pas, le Fils n'existe plus. Si Dieu ne contemple pas Dieu n'est pas contemplé. Et ça, ce sont des relations. Mais pour nous, les hommes, ce n'est pas vrai. Donc quand je vais l'appliquer, comme ça n'est pas vrai sur le plan spirituel, je vais l'appliquer au niveau des relations subjectives, appréhendées métapsychiquement, et ça va devenir vrai métapsychiquement. Et c'est comme ça que je rentre dans une mystique que l'humanité, c'est Dieu, et Dieu, c'est l'humanité, à condition que ce soit dans une unité absolue. Et voilà le tour de passe-passe, n'est-ce pas? Et en plus, un tour de passe-passe qui marche très bien. Mais le fondement de cette. Le fondement, c'est la vérité n'existe pas. Chacun sa vérité, n'est-ce pas? Donc, si la vérité de chacun n'est pas adéquate à la réalité, il reste quoi pour la vérité? Il reste la relation consciente. Vous voyez? Et c'est le problème de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le jugement d'existence. Il peut savoir. Moi, je crois que Yvan Amar, Heidegger savent ce que c'est que le jugement d'existence. Ils le savent très bien. Mais le problème, c'est qu'il va falloir sortir du point de vue des étangs, de la réalité, et c'est ce qu'il faut sortir pour abstraire le point de vue de l'être, n'est-ce pas, et interroger. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce est ? Qu'est-ce que c'est que ce est ? Ceci existe. Qu'est-ce que c'est que ce existe ? Alors je vais abstraire de ceci est, jugement d'existence, je vais abstraire le ceci. Heidegger dit, il faut que je me dégage des étangs, il faut que je me dégage des accidents. Pour essayer de voir ce que c'est que ceci est, c'est quoi l'être, c'est quoi ? Je mets mon nez là-dessus, sur est, n'est-ce pas ? On me dit qu'est-ce que c'est que l'induction, mais l'induction c'est très simple, on va y venir, mais d'abord je ne peux pas faire l'induction sur ceci est si je n'ai pas sorti, si je n'ai pas séparé, pardon, vous avez raison de dire ça tout à l'heure, si je n'ai pas distingué, je ne sépare jamais, mais je distingue le ceci est et le est. C'est le problème de Heidegger, c'est le problème de l'intelligence du XXe siècle. L'intelligence du XXe siècle, elle dit: je dois séparer ceci est et est. Sinon, si je fais abstract, si je garde le ceci, je prends est tout seul, sans le ceci, bah oui, mais j'ai laissé tomber la réalité. Donc je ne suis plus en contact. Donc je ne suis plus dans la vérité, puisque la vérité, c'est l'adéquation de l'intelligence avec la réalité. Si je lâche la réalité, je ne peux plus abstraire. C'est le problème d'Heidegger. Donc le problème d'Heidegger, c'est qu'il dit, je dis ceci, je fais un jugement d'existence, je fais un jugement d'existence sur l'arbre, je fais un jugement d'existence sur mon ami, je fais un jugement d'existence sur Dieu, je fais un jugement d'existence sur tout ce que vous voulez, sur une fleur. Bon. Et puis je vois à chaque fois ceci existe. Même sur le carré, ceci est mon corps. Qu'est-ce que c'est que ce S ? C'est tout le temps S. C'est quoi l'être ? C'est pas la vie, c'est pas ce qu'on a vu la dernière fois. C'est pas la vie, c'est pas le rayonnement, c'est pas la beauté, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce être ? C'est quoi ? Alors, et Heidegger, il dit, bon, c'est ce que nous avons vu, je crois, déjà les deux dernières fois, donc je ne vais pas trop revenir dessus, hein. Mais il dit, mais il faut séparer du ceci. Donc il faut prendre le être pour lui-même. Mais le être pour lui-même, je ne le vois jamais tout seul. Il est pré-conceptuel. Ah. Donc, je suis obligé de m'arrêter à l'interrogation. Je ne peux que interroger. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce est ? Qu'est-ce que c'est que ce est ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que c'est ? Et j'attends que de l'intérieur, l'être me révèle, me fasse une révélation de ce qu'il est en lui-même en tant qu'être. C'est ça qu'attend Heidegger, parce que il peut le faire, parce que c'est un disciple de Parménide, en Grèce, et Parménide a eu la révélation de l'être par la déesse. C'est une révélation. Donc il attend de l'intérieur de son intelligence la révélation de ce qu'est l'être en tant que tel, parce qu'il ne peut pas lui être révélé par une opération de relation avec le Dasein, c'est-à-dire le Dasein, c'est je prends l'arbre, je dis cet arbre existe, j'essaie de concentrer mon attention sur ce fait que cet arbre existe, et si je reste en contact avec cet arbre, et puis le fait qu'il existe, je ne peux pas prendre le S pour lui-même tout seul. Je ne peux que dire qu'est-ce que c'est. Je peux pas, et si je sépare le point de vue de l'être en disant qu'est-ce que c'est que l'être, je suis séparé à nouveau de la réalité, par conséquent, cet être ne peut plus me dire ce qu'il est dans sa substance. Ça va ? C'est le problème de Heidegger. Donc nous avons vu la dernière fois, ça c'était il y a deux fois, la fois précédente, nous avons vu, bon, il s'arrête à l'interrogation, il bute, il ne peut pas revenir, il ne peut pas arriver à l'induction. Nous, ce que nous voulons, c'est arriver à l'induction. C'est pour ça que j'insiste sur cette histoire d'interrogation. Parce que ça, c'est le nœud, ça. C'est là où on coince. C'est là où notre intelligence occidentale ne fonctionne plus. C'est très grave parce que ça fait quand même 7 siècles depuis Occam. 7 siècles. Donc on a 7 siècles à rattraper. depuis Oka, 1332, c'est pas ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Pourquoi est-ce que Heidegger, pourquoi est-ce que nous, on coince là ? Il faut qu'on revienne à l'induction. Pour revenir à l'induction, je dis, mais qu'est-ce que c'est que l'être ? Voilà, l'interrogation. Et pour pouvoir induire, il faut que je revienne à la réalité. Il faut que je revienne à mon jugement d'existence. Et je peux le faire parce que quand je dis, qu'est-ce que c'est que ce est ? Qu'est-ce que c'est que cet existe ? Quand je dis, j'existe. Et quand je dis, qu'est-ce que c'est que l'être ? Est. Et être ont bien la même signification. Mais je ne peux pas induire tant que je ne suis pas en contact avec la réalité. Donc je reviens au jugement d'existence pour induire. Pour Heidegger, on ne peut pas faire ça. Il n'y arrive pas. Il dit, il faut que je reste dans le caractère séparé de l'être et attendre de lui la révélation, comme si c'était une révélation divine. Il y a une espèce de nostalgie mystique chez Heidegger. Et c'est pour ça que je vous disais la dernière fois, je pose la question, mais moi je pense qu'avoir, je trouve que c'est une très bonne question. Bon. Je pose la question, est-ce que Heidegger, en faisant ça, est-ce que c'est pas parce qu'il est coincé par l'angoisse, comme il l'a dit lui-même, son existentiel, qui lui permet de garder l'interrogation active. Cette espèce d'angoisse. Et cette angoisse, est-ce peut-il y avoir angoisse métaphysique s'il n'y avait pas la mort ? C'est impossible. C'est vrai que quand je suis face à cette question de l'être, c'est un moment de recul, d'étonnement. C'est étonnant quand même. C'est pas, qu'est-ce que c'est que ce être ? On sent qu'il y a quelque chose. Je sais pas, j'espère que vous sentez qu'il y a quelque chose. On est là cette année pour voir que vraiment il y a quelque chose. Hein. D'ailleurs, si vous ne sentez pas qu'il y a... Il y a quelque chose, c'est tant mieux parce que vous n'avez pas accès à l'Eucharistie, premièrement. Ceci est mon corps. Vous n'avez pas accès à Dieu, je suis. Vous n'avez pas accès à la personne. Vous vous mariez avec quelqu'un, vous ne savez pas ce que c'est. Parce que la personne de l'autre, c'est sa substance qui fait subsister dans l'unité corps, âme et esprit. Vous n'êtes pas capable de saisir. Tant mieux, premièrement. Dramatique. Alors vous êtes obligé d'avoir une espèce de sauce commune et une espèce de ratatouille. Vous comprenez, il faut avoir des relations humaines, petites, vraies, vraies. Pas nos nostalgies, pas nos impressions, pas nos idées, pas nos opinions. Ça, on s'en fout. Ce sont des accidents. Ça. C'est pas la substance. D'accord ? C'est un gros problème, comprenez. Il faut absolument qu'on sente que c'est... Et puis l'Eucharistie, quand même. Nous, on est chrétiens, en plus. Bon, ça, c'est en dehors, hein, si vous voulez. C'est pas la philosophie, je fais la petite parenthèse. Ceci est encore quoi ? C'est dingue. Parce que sinon, je vais prendre... Imaginez, à ce moment-là, c'est une imagination. Ah, c'est le corps de Jésus. Ah, ça brûle dans ma bouche, ça chauffe dans mes entrailles, ça rayonne dans ma... C'est une imagination, ça ! Parce que jamais la substance n'a chauffé. C'est une transsubstantiation. C'est une imagination ou c'est un effet métapsychique parce que votre intelligence fonctionne dans le point de vue psychique, c'est tout. Donc elle ne fonctionne pas. Et vous devenez mystico-dingo automatiquement. Et c'est pour passer du mystico-dingo à la vie contemplative, c'est-à-dire une vie normale, à une vie humaine. Qu'on fait ça. Alors on rame, c'est lent, on avance petit, c'est tout le temps la même chose, on n'avance pas beaucoup. Est-ce que Heidegger, lui, est-ce qu'il ne coince pas, puisque c'est à partir de l'angoisse, il remplace le point de vue de l'étonnement et de la peur par l'angoisse métaphysique, pour garder cette interrogation de manière acute, comment est-ce qu'on dit en français, de manière très aiguisée. Acute, c'est comme ça, très aiguisé, très cute. Oui, aiguisé, très... Alors, c'est l'angoisse qui lui permet de garder cette interrogation, cette attente, pour que l'être puisse se dévoiler. Et puis, pour Heidegger, il est mort et l'être s'est jamais dévoilé. Mais alors, normalement, il n'a pas fait l'induction. C'est terrible, ça. Je signale entre parenthèses qu'il y a des cassettes très intéressantes... Sur l'induction, pour ceux qui savent pas, qui est-ce qui a posé la question de l'induction? C'est toi. Il y a eu des. Quand vous êtes venu à Saint-Marc, là, tu te rappelles, vous êtes venu à Saint-Marc il y a 2 ans, je crois, ou 3. Et on a fait une. Oui, tu étais là. On a fait une série sur les inductions. Induction de la foudre, qui est la plus facile à faire, l'induction de la psyché, de l'âme, l'induction de. Là, d'abord, l'induction de l'abstraction, l'induction fondamentale, l'induction de la substance, l'induction de l'acte, etc. Hein, et puis à partir de là, on a fait la démonstration de l'existence de l'être premier, de Dieu, du Créateur. Vous vous rappelez? Il y a une série, elle est très très bien, et en plus c'est très court, c'est-à-dire que on a fait pratiquement quelques cassettes, qui doivent faire 7, 6, 7 cassettes, l'équivalent de 5 ans de cours. Donc c'est un résumé fulgurant, et en même temps tous ceux qui étaient là ont réussi à faire l'induction. Donc j'étais vraiment content. On est arrivé à quelque chose d'absolument miraculeux. Bon, alors, c'était un miracle, c'était à Saint-Marc, hein, c'est pour ça. C'était dans un ermitage, c'était quand même pas pareil que dans la ville et tout ça. Bon, alors, dans le fond du Bourbier, on n'induit pas aussi facilement. Pas. Alors, la ville, c'est le chômage, il y a des manifestations, enfin, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de troubles. Alors, vous comprenez, si Heidegger passe par l'angoisse, ça faut bien que sa démarche n'est pas une démarche noétique, mais une démarche qui implique le point de vue de la vie et de la mort. Donc il est dans une démarche qui implique c'est le point de vue vital de son intelligence qui actue son appréhension de l'être. Et c'est pourquoi je pense personnellement, je pense que si il fait ça, si notre monde occidental qui est à Heideggerien phénoménologue fait comme ça, je pense que c'est en raison des nostalgies métaphysiques qui sont en nous. Et notamment, donc, cette espèce de nostalgie du premier instant, ce que nous disions la dernière fois, de notre existence, qui n'a plus la même manière d'être vécue aujourd'hui que dans le premier instant. Dans le premier instant, au moment où nous commençons d'être, d'exister, au même moment, nous commençons de vivre. Notre âme spirituelle, elle est créée par l'être premier dans ce premier instant. Et cet acte créateur vient de l'être premier, du créateur. Par conséquent, quand l'acte créateur de Dieu aboutit à un fruit, ce fruit est nécessairement un fruit parfait. Le but de l'acte créateur de Dieu, l'être, c'est d'unir corps, âme spirituelle, âme et esprit. Donc l'unité entre la première cellule et l'esprit et l'âme sont absolument parfaits dans le premier instant créateur. Et il y a en même temps un contact, comme on dirait avec l'électricité, un contact cette fois-ci vital entre la vie divine et la vie humaine originelle. Notre origine, c'est un contact vivant avec l'acte pur de l'être premier. Par conséquent, l'unité dans la première cellule entre l'esprit, l'âme et le corps est parfaite, totale, lumineuse, resplendissante. Et quelque part, dans une relation du coup, je suis dans une relation vraie avec Dieu et avec toutes les créatures dans la première cellule. C'est la vie divine qui me fait vivre. Et puis, il me laisse pour que mon oui initial devienne un oui personnel. Dans le premier instant de la création, où j'ai été créé, l'être à l'être et la vie font la même chose. Je vous réexplique, parce que ça, il faut que je vous le réexplique au moins 50 fois avant que vous puissiez l'expérimenter vous-même. Parce que moi, je ne peux pas le faire à votre place. Je peux vous expliquer, mais je ne peux pas le faire à votre place. C'est à vous de voir la différence entre l'être et la vie. Je vous l'explique de manière très simple, d'abord. Le fait que vous existez, ça ne dépend pas de vous. En ce moment, vous existez, c'est en raison d'un acte créateur de l'être premier, qu'on appelle Dieu, si on est croyant. Si on est philosophe, on dit l'être premier. Scientifiquement, on aboutit scientifiquement, on ne parle pas la science des chimistes, hein, la science au sens d'Aristote. Hein. scientifiquement, on aboutit à la démonstration irrenversable de l'existence du Créateur. Être premier, acte pur, premier moteur immobile. On dépend. Le fait que j'existe, ça dépend. En ce moment, j'existe. Ah, je dépends de l'acte créateur de l'être premier. En ce moment. Le fait que j'existe, ça dépend de l'acte créateur de l'être premier. Le fait que je vive, ça dépend de quoi? Ma vie dépend de quoi? Ma vie ne dépend pas de l'acte créateur de l'être premier. C'est des conclusions, ça. Hein? Je suis désolé, il faudrait peut-être que... C'est des conclusions, mais c'est justement là que je vous avais demandé un petit acte de confiance, en disant, croyez-moi, je vous assure, que si vous rentrez dans le point de vue de la vie, vous allez essayer de chercher le principe de cette vie, et si vous cherchez le principe de cette vie, on aboutit à l'induction de l'âme. C'est l'âme qui est principe de vie. Et c'est l'être premier qui est principe de l'être. Là, je vois tout de suite que la vie et l'être n'ont rien à voir. Le fait que j'existe, ça vient du Créateur. Le fait que j'ai de la vie, ça vient de l'âme. Et l'âme, c'est moi. Ma vie ne dépend pas de Dieu. Ma vie dépend de son principe. Et son principe, c'est l'âme. C'est pour ça que si je rentre dans le point de vue de la vie, pour trouver son principe, la lumière, la source vivante, et je dis, ça y est, j'ai découvert la divinité, c'est pas la divinité, c'est toi. C'est pourquoi si il faut revenir au jugement d'existence, j'existe, ah, voir que je dépends de la créature de Dieu, paf, tu fais sauter toutes les vérités relatives. Et tu rentres dans la vérité absolue. C'est le seul endroit où tu es sûr d'être dans la vérité. J'existe, je dépends de la créature de Dieu. À ce moment-là, ton intelligence contemplative se réveille. Vous comprenez que si c'est l'angoisse, ça veut dire bien que l'appréhension métaphysique de Heidegger, s'il s'arrête à l'interrogation et s'il est bloqué par l'interrogation, ça prouve bien que c'est une question de mort qui est là, qui est motrice, mort, vie. C'est pourquoi je dis, je pense, moi, que son appréhension de l'être, elle se fait à travers le prisme de la question de la vie et de la mort, et c'est pourquoi, effectivement, il y a un arrêt. Il y a l'angoisse. Et il s'arrête à l'interrogation. Donc je pose la question, qu'est-ce que c'est que cette nostalgie du premier instant? Ça ici, c'est actuel. Actuellement, ma vie dépend de mon âme, mon être dépend de Dieu. Mais dans la première cellule, dans le premier instant, ça j'espère que vous comprenez, dans le premier instant, l'être dépend de l'être premier, et mon âme spirituelle est créée par Dieu, par le Père, le donateur de vie. C'est, voilà, la vie parfaite, l'acte premier. C'est l'acte premier qui me donne, elle ne le crée pas, mais qui me donne une âme spirituelle. C'est mon Père. Donc, dans le premier instant, mon être et ma vie dépendent du Créateur, dépendent du Père, de mon Père, celui qui m'a donné l'âme spirituelle. Donc, l'être et la vie ont le même statut, vous comprenez, dans la première cellule. L'instant d'après, c'est fini. Sinon, on ne serait pas une personne. C'est difficile à comprendre, ça? Et ça, ça crée en moi, aujourd'hui, une nostalgie métaphysique. Parce que ici, dans ce premier instant où ma vie, ce n'était pas mon âme qui faisait ma vie, mais c'était la vie divine, la vie paternelle de Dieu qui déterminait toute ma vie, tout mon vécu intérieur. Donc ça impliquait lumière, fulguration, présence, amour, contemplation, relation consciente, active. C'est ce qui fait d'ailleurs que dès notre première cellule, notre corps est en relation avec tous les autres corps de tout le cosmos. Et nous en avons la mémoire dans notre mémoire génétique, dans notre mémoire cellulaire, informée spirituellement par l'âme. Il faut les deux. Nous en avons la mémoire. Et du coup, une nostalgie invraisemblable. D'accord? Et c'est en raison de ces nostalgies que, probablement, ça c'est moi qui le dis, mais il me semble que je ne me trompe pas, que Heidegger n'arrive pas à revenir au jugement d'existence pour voir ce que c'est que l'être par l'induction. Bon, je vous avais promis qu'on essaierait de voir un petit peu ces nostalgies métaphysiques, et la prochaine fois, c'est-à-dire en 1996, on va enfin regarder, on va enfin faire la première induction, et on va faire l'induction de la substance, enfin l'induction de l'upsa, de l'ousia. Le premier objet de la métaphysique, c'est de découvrir la substance, l'ousia. Ousia. La substance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de substance? Dans le Est, dans le fait que dans ce Est, je rentre un moment dans le tunnel. Ça, ça c'est un schéma, hein, je fais un espèce de schéma. Hein. Tu rentres dans l'être, et puis, paf, tu découvres la substance. C'est extraordinaire. Comment est-ce qu'on fait? Ben, on va voir. Et pour revenir, pour découvrir l'ousia, il va falloir revenir au jugement d'existence et découvrir la substance. Mais ce n'est pas une découverte comme on découvre un renard dans une tanière. Attention, ce n'est pas du tout comme ça. C'est par induction. Parce que quand on découvre un renard dans une tanière, on rentre dans le tunnel, tu vois, ah, oh, le renard. Ça, c'est une appréhension, ce n'est pas une induction. Tu appréhendes. Le renard, puis il te mord le nez. Oh, ça fait une découverte très particulière. Hein. Bon, alors, ok. Bon, donc, je m'excuse pour ceux qui étaient là, mais en même temps, je crois que pour ceux qui étaient la dernière fois, c'est une reprise de ce que nous avons fait les deux dernières fois. Et comme ça, ça vous remet dans le contexte. Et on regarde maintenant les nostalgies. On avait regardé déjà un petit peu, hein, je crois. Non ? Je ne m'en veux plus. Bon, alors, vous prenez votre tableau cette fois-ci. Et vous prenez, vous avez ici les sept, vous lisez ici la colonne de gauche, les sept expériences fondamentales, nous avons sept dimensions dans l'homme. Les sept approches philosophiques de la vérité. Pour percevoir la dimension d'amour en nous, il y a l'éthique. Pour percevoir la dimension du travail en nous, il y a la philosophie de l'art. Pour percevoir la dimension contemplative en nous, il y a la philosophie métaphysique que nous sommes en train de faire. Pour percevoir la dimension naturelle et corporelle qui est en nous, il y a la philosophie donc, de la nature. La philosophie du vivant, c'est en raison de notre intériorité. La philosophie politique, la philosophie de la coopération, c'est en raison donc du fait qu'on est en vie en famille, qu'on coopère. Et puis la dimension de la théologie naturelle, donc la philosophie de sagesse, c'est en raison du fait qu'on est en relation avec l'être premier. Voilà les sept dimensions qui sont en nous. Nous avons sept dimensions. Bon, on continue. Il y a en dessous les notes symboliques ou qualités finales. Vous y êtes? Et oui, nous avons ces sept dimensions, mais tout le monde n'a pas la même. Il y a des gens qui sont coincés. Justement, ce qu'on va voir avec les nostalgies. Des gens qui coincent sur une dimension, et puis sur une autre, ils sont formidables. Alors, il faut arriver à découvrir dans laquelle de ces dimensions je suis le plus. Où est mon pli principal? Pourquoi? Parce qu'il faut que je l'exploite, bien entendu, ce sera mon charisme. Mais il faut en même temps que je fasse attention que ce ne soit pas dans une disharmonie absolue avec les six autres dimensions. Il faut que je vois aussi les dimensions qui sont en moi qui sont totalement absentes. Et qui font que finalement, si j'exploite les dimensions qui me sont subjectivement agréables, je vais devenir un monstre. Donc il est très important de percevoir le pli de son intelligence. Il y a sept grands plis dans notre intelligence. Dans notre vie intérieure, dans notre vie extérieure, dans notre humanité. Et pour ça, il y a ces petits passages où on voit les notes symboliques ou qualités finales. C'est sûr que, par exemple, quelqu'un, vous voyez bien, qui est très intérieur, vous voyez, vous allez rencontrer quelqu'un qui vit de la vie intérieure, un bouddhiste, par exemple, vous voyez, hein, un bon gourou, merveilleux, bon, eh bien, plus tu investis ce point de vue de la lumière, et de la lumière qui accuse cette lumière, et de la lumière qui est origine vivante de cette lumière, et puis de la source finalement son principe, de cette lumière, qui est bon, qu'on appelle l'âme, ben, plus tu t'investis là-dedans, tu t'engloutis là-dedans, plus tu vas avoir, être un personnage rayonnant. Voyez, note symbolique ou qualité finale pour la dimension de la vie, ça fait quelqu'un qui rayonne, qui émane, qui est lumineux. Ça ne veut pas dire que sa mystique, sa spiritualité relève de la lumière spirituelle. Ça veut dire qu'il relève de la lumière psychique et de sa source. Ça veut dire qu'il s'investit beaucoup dans la vie intérieure, c'est-à-dire en lui-même. C'est très très bon s'il adore aussi. S'il ne fait que ça, c'est foutu pour lui. Hein? Supposer qu'il n'y ait que ça, c'est ça le bouddhisme. Le bouddhisme, je supprime tout le reste. Il faut supprimer tout le reste. Samadhi sans racines. Donc les 6 autres racines, je dégage. Il faut qu'il y ait uniquement ça. Le résultat, c'est qu'il adore plus, qu'il n'y a plus son jugement d'existence. Et c'est pour ça que j'aboutis à dire je suis anatman, je suis non-être. N'existe pas. Je suis n'existe pas. Je ne suis pas. Sinon, c'est pour pouvoir rentrer dans la. Absolument, complètement, corporellement, psychiquement, artistiquement, intellectuellement, affectivement, tout quoi. Le point de vue du principe de ma vie intérieure est là. Vous voyez ? Alors à ce moment-là, c'est un gros problème, parce que du coup, le point de vue de l'absolu métaphysique va rentrer dans l'intériorité et ça va donner du métapsychique. Et à ce moment-là, dès que je rentre dans le métapsychique, c'est mon corps qui explose, vous le savez, c'est comme ça qu'on ouvre les chakras. Mais pour reboutonner les chakras, tintin ! Avis aux amateurs. Bon. Tu peux toujours courir, mon pote, pour reboutonner un chakra. Bon, il y en a qui peuvent y arriver, mais c'est un gros travail. Et je vais vous dire, ceux qui peuvent vous aider à le faire, ils n'ont pas trop le temps. Alors, bon. Alors, très bien. Bon, peu importe. Nous avons ici, voyez-vous ce que c'est, les notes ou symboliques ou qualités finales. Bon, quelqu'un qui vit beaucoup de l'amour, d'amitié, première colonne, qu'est-ce qui va resplendir de son visage? Qu'est-ce qui va émaner de son visage? C'est beaucoup l'amour, c'est quoi? C'est quand, aussitôt que tu rencontres quelqu'un, tu saisis tout de suite la personne en lui. Hein? Il ne faut pas regarder l'aura ou la séduction ou la beauté. Non, non, c'est pas ça qui est saisi. C'est la personne. C'est extraordinaire, mystère. Bah, c'est pas un mystère d'ailleurs. Tu saisis la personne, parce que tu es contemplatif. Et du coup, aussitôt, c'est la substance de l'autre qui t'attire. C'est lui qui fait mouvoir toute ton intériorité, et tu appréhendes le point de vue de l'extase. À sortie, tu es attiré par un autre. Premièrement, par Dieu. Tu es attiré par Dieu. C'est pas attiré par ton âme, hein, en disant, mon âme, c'est Dieu. Non, tu es attiré par c'est extraordinaire, ça. Tu t'habitues, enfin, tu rentres dans la perspective de l'amour, de l'extase. C'est l'autre qui commande tout. Alors, qu'est-ce qui reste? Alors, à ce moment-là, tu es dans un état de plénitude. Il y a quelque chose qui déborde. Tu es dans un état de plénitude. L'extase, tout est plein. Tout déborde. C'est toi qui débordes de toi-même pour aller vers l'autre. Et c'est l'autre qui commande. C'est pas toi qui veux, c'est l'autre qui t'attire. L'amour s'impose à toi. C'est pas toi qui dis je vais aimer les mecs. Tu peux toujours essayer, par la force du poignet, de dire je vais aimer. L'amour s'impose à toi. En raison précisément de la liberté de ton cœur. Mais si ton cœur est esclave, noué, l'autre ne t'attire pas. Tu ne rentres pas en extase du tout. L'autre dit t'as vu le furon, ça hein, c'est vrai. Ou alors, tu es attiré par la beauté plastique. Quoi. C'est pareil, c'est comme le furoncle, c'est même pire. Bon, alors. Oui, parce que la beauté plastique, ça pourrit, tandis que le furoncle, ça se guérit. Alors. Ben, la fleur se fane, hein, tout le monde sait ça. Alors. Mais c'est vrai. Sainte Thérèse d'Avila était beaucoup plus moche à la fin de sa vie que quand elle était jeune. C'est pour ça que tous les moines, tous les de la ville d'Avillard, précipités au parloir. C'était splendide. Elle était beaucoup plus belle, spirituellement parlant, à la fin. Sauf erreur, n'est-ce pas? Voilà. C'est sûr. Mais c'est, vous voyez la différence, hein? Vous, vous êtes, par exemple, oui, quelqu'un qui adore. Donc, quelqu'un qui est très religieux, qui a ce sens de l'adoration. Et qui, tout le temps, est en dépendance du Créateur. Il est en union avec Dieu. Tout le temps, il se livre à lui. Qu'est-ce qui va resplendir de lui, hein? Souvent, c'est ça. Hein? Vous n'avez qu'à regarder. Il y a quelque chose qui émane. C'est de la bonté. C'est ça. L'amour sort de lui. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la lumière. Vous voyez? Le visage rayonnant. Et puis, quand il y a cette dégouline de bonté. C'est quelqu'un qui dégouline de bonté, c'est quelqu'un qui est en lien avec Dieu. Avec son Créateur. Oui? Quelqu'un qui aime, qui a un amour fou, d'amitié, c'est vraiment l'autre qui commande tout, hein. Il meurt, hein. C'est pas sa vie qui compte, hein. Il en meurt. Parce que si toi tu aimes en disant, bon, j'aime à condition que ça me fasse du bien. Ah, ben, foutu, c'est pas de l'amour, pas de peau. Regardez Béatrice et Vincent. Ils sont morts tous les deux, là, trois jours. Bon, on ne les voit plus. Il ne reste plus que l'unité sponsale. Ils sont morts tous les deux. C'est fantastique, ça. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils sont venus me voir à l'hôpital. Ils étaient émouvants, ils étaient mariés, tout ça, lui, ça. Ils sont venus me voir. Ils sont venus expirer sur mon lit de mort. Mais voilà, ils sont morts et moi j'ai ressuscité, si je veux. C'est extraordinaire. Bon alors, voyez bien, quelqu'un qui est très artiste, la dimension artistique, un travailleur, contact avec la matière, quelqu'un qui est très artiste, puis qui a une inspiration, qui transforme la matière. Regardez le bœuf qui remue le sol, l'artiste, le vrai artiste, c'est un silencieux. Quand tu le vois, ça rayonne du silence. Il y a quelque chose. Un vrai artiste, il dégouline de silence. C'est à ça qu'on reconnaît un artiste, d'ailleurs. Oui. Oui, d'accord. Oui, l'art, c'est pas, ne se juge pas à l'œuvre. L'art se juge à l'auteur. Pour te donner une comparaison, par exemple, on va dire que Picasso, c'est formidable. Mais je fais exactement la même chose que Picasso, on va dire, c'est nul. D'accord? C'est en voyant l'artiste que tu vois que c'est de l'art, d'accord? Pourquoi? Parce que l'art s'origine, c'est l'origine, c'est par l'origine, c'est par le principe. C'est par le principe que tu connais quelque chose. C'est par son principe, c'est par sa source que tu connais quelqu'un ou quelque chose. D'accord? Et l'œuvre a pour source l'inspiration de l'artiste. Ce qui commande tout, c'est pas l'autre. Ah! Qui commande toute sa vie intérieure, c'est lui. Il a une inspiration et son inspiration doit s'imposer. Son inspiration est géniale. Si tu veux, la dimension artistique en nous, c'est l'aspect génial en nous. On a quelque chose de génial. Chacun a quelque chose de génial. Et il faut que ça se transmette. Hein? Alors, plus l'idée de l'artiste, c'est-à-dire l'inspiration, est puissante, plus elle est motrice de tout en lui, plus il va faire, il va passer. Il va passer dans la matière. Que la matière ait une forme abstraite, ait une forme impressionniste ou une forme réaliste, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il soit fidèle à son inspiration et qu'il aille jusqu'au bout. Mais toi, et toi, si tu es capable de percevoir l'idéa dans une œuvre, tu perçois tout de suite que c'est un artiste. Tu vois, parce que toi-même, tu es artiste, ou bien tu t'aperçois que c'est un type qui s'est amusé. Un âne qui a fait avec sa queue. Hein? Et tu le perçois. Mais on le perçoit, un type qui est artiste, il perçoit tout de suite devant une œuvre, même abstraite, même impressionniste. Si c'est... Ouf, si c'est génial ou pas. Mais il faut faire attention aux gens qui disent à la télé, génie, etc. Faire attention, évidemment, évidemment. Mais ça, tu regarderas ça dans le bas du tableau, puisque dans le bas du tableau, tu as les 7 critères de l'artiste véritable, tu vois, celui qui va jusqu'au bout. Mais on l'avait déjà fait il y a 4 ans, donc je ne reviens pas sur la philosophie de l'art. Il y a des cassettes très intéressantes sur cette question, et c'est les cassettes sur les 5 structures d'intériorité. Et on a regardé pendant 2 ou 3 fois de suite les structures d'intériorité de la vie artistique. On y est resté longtemps, parce que c'est justement le problème contemporain, comme je vous l'ai dit la dernière fois, au niveau contemporain, la seule dimension humaine qui reste à peu près libre, c'est la dimension artistique. Les 6 autres, vous vous rappelez, je vais montrer que elles se sont évaporées dans la nature. Ça, c'est la... Notre humanité est devenue une humanité de gens qui veulent chacun faire leur truc. Chacun sa vérité. Chacun, en fait, son inspiration. Mais ce n'est pas sa vérité. Alors, on continue. Oui. Ah oui, très justement dit, oui, vous avez raison. Si la création, c'est-à-dire les choses que vous constatez, vous par exemple, vous existez, nous existons, l'univers existe. Si c'était l'homme qui était origine de la création, comme dit Yvon Amar, puisqu'on est ces relations conscientes, n'est-ce pas? Et c'est ce tissu de relations conscientes qui font la création et ce qu'elle est. Bon, ça se discute, mais n'empêche que si c'est l'homme qui est origine de la création, alors à ce moment-là, c'est vrai que l'idéa, c'est-à-dire l'inspiration, serait l'être des choses. D'accord? Et c'est vrai que comme on est aujourd'hui dans une philosophie, dans une mentalité artistique, la mentalité contemplative a disparu. L'amour n'existe plus. Si, l'amour, je tombe amoureux, mais comme la tourterelle, pas plus, ça ne s'affiche pas plus loin. Et puis, tu as la dimension du corps mystique, c'est-à-dire la solidarité mystique d'un corps familial ou social n'existe plus non plus. T'as qu'à voir, d'ailleurs, ce qui se passe en ce moment. Mais peu importe, c'est pas ce qui se passe en ce moment. La dimension religieuse, alors, c'est même pas la peine d'en parler. Bon. Et bon, il ne reste plus que la dimension artistique. Et comme on est effectivement dans une mentalité heideggero-nietzschéenne, c'est ça comme disait Maurice Clavel, eh bien, effectivement, on a ce truc que finalement, ben oui, c'est l'être des choses vient de nous. C'est Descartes qui dit ça, je pense, donc je suis. L'être vient de ma pensée, vient de moi. C'est Descartes, c'est totalement faux. L'être, il vient de la réalité. Il vient pas de moi. Même si je pense pas la réalité, elle continue d'exister. Il vient pas de moi. N'importe qui, un enfant, comprend ça. Mais Descartes n'a pas compris. Dommage. Et c'est ça le problème. Et effectivement, si on le prend sous le point de vue de l'analogie de la vie artistique, alors là, oui, on peut dire quelque part que c'est à partir de nous qu'il y a quelque chose de vrai dans l'être des choses que je perçois. Mais à ce moment-là, c'est uniquement par une intelligence artistique. Ce n'est pas par une intelligence lié à la vérité, lié à la réalité, lié à l'adéquation d'elle-même avec la réalité, lié à la vie contemplative. Eh bien, la véritable... Ah non, l'inspiration, tu es toi-même source de ton inspiration, sinon tu n'es pas artiste. Ah mais attention, les grandes œuvres inspirées de Bach, non. Avant l'inspiration, tu as une certaine appréhension, tu contemples la beauté, tu contemples ici, si tu as une belle musique que tu entends des anges, comme dit, hein, comme il dit. C'est vrai, si tu es musicien, quelquefois on entend des musiques comme ça qui te viennent d'extérieur. Tu tu les perçois, tu les reçois, tu les savoures. Ah, et ce mélange-là fait un détonateur. Paf, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Mais c'est jamais, tu ne recopies jamais une inspiration. Jamais, sinon tu n'es pas artiste. Ça, c'est très important. Alors, l'inspiration vient de toi. C'est toi qui dis, waouh, mais bien sûr. Je prends toujours, parce que j'aime beaucoup l'exemple de M. Mémenas. M. Mémenas, c'est né de ses rochas, vous savez? Bon, c'est né, il respire les parfums. Alors, il connaît 7 ou 8 000 parfums. J'étais en train d'aller à Paris en voiture, puis j'avais un poste radio. Lui, c'est tombé sur France Culture, je sais pas quoi, ou Nostalgie, je ne m'en rappelle plus. Et c'était M. Mémenas qui était interrogé. Bon, voilà. Alors, il doit créer des parfums, c'est un artiste. Il doit créer des parfums. Donc, il respire plein de parfums, etc. Et puis, il dit, au bout d'un certain temps, on ne peut plus rien respirer, hein, sinon on ne crée plus rien du tout. Il faut qu'on se retire, pas qu'on soit seul, qu'on ne respire plus rien, qu'on aille ailleurs, qu'on fasse une espèce d'ascèse du nez. Et puis donc, il fait une ascèse du nez, il part en Italie et il va regarder les mosaïques de Ravenne. Vous savez, en Italie, je ne sais pas si vous avez vu, là, ici, visiter Ravenne, c'est magnifique. Il rentre dans cette basilique, il voit les mosaïques de Ravenne. Et en voyant les mosaïques de Ravenne, au bout de 15 jours d'ascèse du nez, il voit les mosaïques de Ravenne, il comprend. Il y a quelque chose qui rentre en lui, ça correspond à peu près à la même chose que ce qu'entendait Beethoven. Et ça rentre en lui, et d'un seul coup, en sortant, il dit, mais cette impression que j'ai après avoir vu les mosaïques de Ravenne, il faut que j'en fasse un parfum. Il faut que je le traduise en parfum. Et il a créé Byzance. Ouais, vous mettez Byzance, qu'est-ce qui met Byzance ici? C'est extraordinaire. Traduire parfum. Ça, tu vois. Parce qu'avant l'inspiration, il y a l'accumulation des contemplations esthétiques diverses. Et c'est cette accumulation des contemplations esthétiques diverses qui vont faire naître, c'est le climat intérieur de l'artiste, vont faire naître en lui cet surgissement. C'est lui qui fait naître en lui une inspiration, et cette inspiration, c'est la sienne. Et il faut qu'il le crée. Il faut que ça se transforme. D'accord ? C'est comme ça que les artistes disent qu'ils fonctionnent. Moi, je ne suis pas artiste, donc je ne peux pas vous dire. Je peux vous dire simplement ce dont ils témoignent. Voilà, vous avez un bouquin très intéressant, 800 pages, uniquement là-dessus. Ça s'appelle l'activité artistique MDP. MDP, ça veut dire, c'est un monsieur qui s'appelle MD, et son nom c'est Philippe. Très intéressant. Oui, parce que c'est, je crois, une des rares topics sur l'inspiration artistique qui existe. Mais en même temps, il développe à partir de l'inspiration ce que les artistes disent sur le développement après, jusqu'à l'œuvre. Très intéressant, parce que tu ne peux faire la philosophie que de l'expérience. Moi, je disais, je suis parti. Alors, donc, je suis guignol, mais pas artiste. Un guignol, ce n'est pas un artiste. Bon, alors, un guignol, il fait des grimaces, il répète, vous voyez, c'est un perroquet, quoi. Alors, c'est pas un artiste. Alors, donc, il faut quand même qu'on avance. Alors, vous voyez que la ligne d'en dessous, c'est les transcendentaux. Si vous voulez bien, on reverra ce que ça signifie plus tard. Et nous voici arrivés aux trois lignes qui nous intéressent, à savoir les nostalgies profondes. Alors, on va regarder ça, si vous voulez bien. Alors, les nostalgies profondes qui réveillent l'intelligence à chercher Dieu. Il faut que nous repérions ces nostalgies. N'est-ce pas? Ils correspondent à des ébranlements profonds. C'est qui sont des ébranlements très profonds. Hein. C'est des ébranlements qui viennent du résultat, si vous voulez, du contact en vous entre l'être et la vie. Il y a quelque chose, c'est très différent, mais il y a un point de contact quand même, n'est-ce pas? Et comme il y a eu un... Bon, on va revenir là-dessus. Donc les ébranlements, c'est profond, c'est très profond. C'est ce qu'il y a de plus de plus originel dans la vie et de plus substantiel dans l'être. De toute façon, il n'y a pas de plus et de moins dans l'être. Donc, j'existe, puis c'est tout. Il n'y a pas de plus. Je ne peux pas exister plus ou exister moins. C'est existe, puis c'est tout. C'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose d'exister pour toi. Pareil. Bien, tu n'existes pas plus que moi. C'est consonant, hein? C'est vrai. Comme disait mon vieux père spirituel, il disait, quand je serai en enfer, c'est merveilleux, parce que je verrai que j'existe, je verrai que j'existe. Il y avait une petite voix aérienne, je verrai que j'existe, alors je serai heureux, puisque le fait que j'existe, eh bien, j'existerai au même titre, exactement au même titre que Saint-Joseph, qui a toutes les gloires de Dieu. On est égalité, je dirais, voilà. Mais si, je m'embête dans ces ermitages-là, je m'embête. Comme toi, pareil, mais rien, je m'en fous. Du moment que j'existe, je m'en fous. Mais ce qu'on vit, mais c'est aucune des importances. Puisqu'on existe, mais rien, le fait de savoir que j'existe, ça me donne un bonheur. Et ça, c'est éternel. Mais mon enfer, c'est pareil.
Non, mais ça fait digne. Et nous sommes dignes tous de l'enfer. C'est Jésus qui nous rend dignes de la vision béatifique. S'il n'y aurait pas Jésus, personne n'irait dans la vision béatifique. Pas une seule personne ne pourrait rentrer dans la vision béatifique sans Jésus. Pas une seule. Nous sommes dignes tous de régions inférieures. C'est toute notre vie. On ne dira pas que Jésus, c'est tout notre être. Jésus, c'est toute notre vie. Non, ça, c'est pas de la philosophie. Alors, donc, les ébranlements profonds, et on va regarder aussi les ébranlements profonds qui montrent les limites qu'on a touchées ici, donc dans l'origine, et encore actuellement, les limites. Et enfin, on va regarder descriptivement. Descriptivement, qu'est-ce qui monte en moi, qu'est-ce qui m'habite à l'intérieur de moi, lorsque j'essaye d'approcher le point de vue métaphysique. Je suis en relation avec quelqu'un d'autre, c'est que c'est. Quand je commence à rentrer là-dedans, vous voyez, est-ce que j'ai. Oh là là, j'ai pas envie, j'ai envie d'aller très vite, je sens un vide, vivement qu'on passe à autre chose, ou l'angoisse, qu'est-ce qu'il y a pas? Quelle est l'odeur qui monte très profondément en vous lorsque vous commencez à rentrer dans le point de vue contemplatif? J'ai une espèce d'odeur, vous pouvez arriver à percevoir. Vous êtes très, 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 très attentif. Vous éprouvez quelque chose, métaphysiquement. C'est extraordinaire. Alors, il faut voir. On va regarder ça. Et tout de suite, je tiens à vous dire une chose. Bon, non, parce que sinon, on n'en finira jamais. Donc, il faut quand même qu'on avance. Donc, d'abord. On va les aligner. Hein. Si vous êtes un bonhomme, si, une bonne femme aussi, qui est très très. L'amour s'impose à vous, vraiment, spirituellement parlant. Hein. L'extase pour vous. C'est jamais c'est vos impressions qui commandent. Oh, c'est vraiment l'intuition que c'est ça. J'ai vraiment. Ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Tu vois. Quelqu'un qui, par contre, c'est l'autre, qui est l'autre porte. Perçoit ça, et hop, il y va, à ce moment-là, il aime. Vous voyez, la soif d'amour. Voilà la grande nostalgie. On a une soif d'amour, tous. Les sept nostalgies, nous avons tous. Hein. Mais l'une plus que l'autre. Soif d'amour et d'épanouissement. On a une soif tous d'amour et d'épanouissement. Ça, c'est absolument évident. Vous voyez. Alors, si jamais. Par exemple, je fais un acte, supposons, d'amitié. Je découvre quelqu'un pour la première fois. je perçois pour la première fois que cet amour s'impose à moi et je découvre en l'aimant que ce qu'il a me dépasse complètement. Sa personne a une dignité, un mystère, même s'il bégaye, ça j'en suis, je vois même pas. Je vois qu'il y a quelque chose d'immense, très très grand. Je saisis en lui la substance de la personne même, le mystère. Oh, pff, ça m'attire encore plus. Il y a une espèce d'attraction irrésistible. Voyez? Et si au moment où, pour la première fois, c'est toujours dans la première fois qu'il faut le repérer, hein, parce que dans les autres fois, après, il y a des mélanges, mais dans la première fois, vous le repérez, il y a quelque chose qui fait que vous, hop, vous vous arrêtez. Voyez? Est-ce que ça peut être de la peur, ça peut être de l'angoisse? Si c'est dans le point de vue de l'amour, vous vous sentez honteux. Vous vous sentez égoïste. L'autre est grand, certes, il vous attire, mais vous vous arrêtez parce que vous sentez en vous la nudité, la, voyez, cet aspect égoïste. Et vous avez honte de vous. Alors, vous freinez. L'attraction, l'amour s'impose à vous. Vous voyez, ce sentiment ici, c'est cette fameuse qu'on appelle l'ébranlement, égoïsme. Attention, ce n'est pas l'égoïsme des actes. Vous voyez, je parle bien de l'égoïsme comme odeur métaphysique. J'espère que vous sentez la différence entre les deux. Ce n'est pas l'égoïsme en disant, tiens, il y a du gruyère, allez hop, je prends les trois quarts, les autres, ils viendront. Maintenant, j'ai plus de gruyère, alors. Bon, alors, et du coup, égoïsme, honte, vous voyez, cette espèce de honte métaphysique, pas psychologique, hein. Et du coup, descriptivement, si au niveau descriptif, vous pouvez décrire au niveau sentimental ce qui va apparaître en vous, c'est le fameux descriptif, descriptivement, désespoir. Dès que vous approchez de quelque chose qui vous dépasse, l'homme est la seule réalité dans notre univers qui trouve son identité dans le dépassement de lui-même. Ce n'est pas le cas, par exemple, du ver de terre. Le boa trouve son identité lorsqu'il mange tout. Il mange beaucoup. Même un sanglier. Oh, c'est un boa. C'est pour lui, un boa. Et nous, on trouve notre identité en nous dépassant. C'est la seule réalité dans notre univers, comme tous les philosophes, qui trouve son identité, sa réalité, dans un dépassement de lui-même. Mais lorsque, c'est pas tout le temps, c'est pas tout à chaque fois. C'est des moments très rares. C'est des moments très rares où on a quelque chose qui nous dépasse. Et quand c'est l'amour qui fait qu'on rentre dans un mouvement d'amour, d'attraction, d'extase, à ce moment-là, tu découvres ce sentiment de honte qui s'empare de toi. Et finalement, il y a une espèce de désespoir métaphysique. Il faut percevoir ça. Et vous voyez comment on lit maintenant ? On va le faire plus vite pour les autres, et après on va démarrer sur la question de la nostalgie et des guerriennes, c'est-à-dire la nôtre, occidentale, n'est-ce pas? Alors, ensuite, on passe. Si on est un artiste, on a une capacité, voilà la nostalgie, on a une capacité on sent qu'on peut tout transformer. Pourquoi est-ce qu'on a une soif de bonheur et d'épanouissement? Parce que dans la première cellule, on avait tout le bonheur possible et tout l'épanouissement, puisqu'il y avait la présence de Dieu qui remplit tout. Lumineusement, et l'attraction de Dieu est totale. Le premier moment de notre vie et de notre être est un moment extatique pur. L'attraction de Dieu est formidable. Et lui, il est partout présent. Et c'est à cause de ça qu'on était amoureusement présent à toute chose, corporellement, dans la première cellule. Et tout ça est inscrit dans notre mémoire génétique, spirituellement animée par l'âme. Ça, il faut voir notre origine. Hein. C'était fou, notre première cellule. Notre expérience première cellulaire, c'est fou. Et en même temps, on était, du point de vue de l'art, Dieu le Créateur est présent. C'est lui qui crée toutes choses. Donc je me sentais avec lui capable de tout créer, de tout recréer. Vous voyez, cette puissance créatrice qui est en nous dans la première cellule. Cette espèce, on est imbibé de la vie créatrice de Dieu. On est le créateur par excellence, si je puis dire, au point de vue de l'artiste, quoi. Celui qui va compléter Dieu, quoi. Il a tout pouvoir. Dieu, il aurait pu faire un monde plus parfait. Il avait ce pouvoir, il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Pour que nous, et dans la première cellule, on en a cette impression, pour que nous complétions la création. Tu travailleras pour compléter la perfection de l'univers. Et nous avions ce pouvoir de le faire dans la première cellule, cette impression. Donc, on éprouve comme cette nostalgie de la capacité infinie et de la soif de créer. Alors, comment est-ce qu'on a dit ? Oui, cette capacité de dominer sur l'univers pour pouvoir le transformer de l'intérieur. De l'intérieur ! On avait cette capacité, quelque part. Enfin, c'est pas nous qui l'avions, mais c'est la puissance créatrice vivante de Dieu dans notre âme, dans son premier moment, qui était là. Et donc, on savait qu'on était appelé à cet art, de manière à transformer les choses de l'intérieur, comme on le lit dans le livre de la Genèse, d'ailleurs. Vous voyez ? Alors, cette infinie soif de créer, de dominium, ça veut dire domination pour pouvoir transformer de l'intérieur. Dominium. Bon, soif de créer. On a autorité, vous comprenez ? Mémanaz, il a autorité sur la fabrication des parfums. Dis-moi, j'ai cette impression, et je vais créer Byzance, et puis c'est tout. Et puis maintenant, bulldozer, hein. Même s'il y a 15, 20, 30, 50, toute la société Rochas qui dit « Non, vous ne ferez pas Byzance », ils disent « Non, je vous en ». Ouais, c'est Byzance, ça se crape, c'est tout. Et puis, je ne suis pas content, je dirais, je ne sais pas moi, c'est le concurrent, je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, Yves du Rocher, bon, je ne sais pas. je ne sais pas comment il s'appelle, moi je ne suis pas un spécialiste, alors... Moi, je prenais au sauvage, alors. Bon, alors. Je dis, mais à l'opensi, vous comprenez, quelqu'un qui ne réfléchit plus, un idéaliste, quelqu'un qui est idéaliste, qui est artiste, qui est idéaliste, qui a des idées, qui a ses opinions, qui fonctionne en fonction des impressions, il n'interroge plus. Il faut donc retrouver l'être sauvage. Vous voyez, j'avais ça depuis le début, et j'ai traduit en parfum, toujours. Oh, sauvage, je trouve ça formidable. Alors, quand on peut... Vous avez... Alors, ici, c'est plus difficile, c'est le point de vue métaphysique, le contemplatif. Le contemplatif, c'est-à-dire le type vraiment intelligent intérieurement et extérieurement. Quelqu'un qui a une intelligence humaine encore saine, n'est-ce pas ? Qui ne s'est pas replié sur l'imaginaire, qui ne s'est pas replié sur la raison, qui ne s'est pas replié sur les idéologies, qui ne s'est pas replié sur les propagandes, qui est libre par rapport à ça. Son intelligence est contemplative. Alors, à ce moment-là, une perspicacité, vous voyez, et alors, il y a quelque chose de tragique pour le contemplatif, et vous le savez très bien, c'est que, il se dit, mais il y a en moi le corps, vous voyez ce que dit saint Paul. Il y a en moi l'âme spirituelle. Et puis, l'un travaille contre l'autre. Il y a une dualité substantielle en moi, que je n'ai pas dans la première cellule, parce que l'union entre mon âme et mon corps, dans ma première cellule, elle est totale. Elle n'est pas seulement substantielle. Elle demeure substantielle aujourd'hui, mais elle est totale. Et la substance va jusqu'à l'acte. Elle est actuelle, c'est-à-dire elle est parfaite dans la présence créatrice de Dieu de la première cellule. Mais tout de suite après, quand Dieu me laisse libre et que c'est mon âme qui détermine mon corps, il le détermine d'une manière beaucoup plus imparfaite. Et il y a une dualité. Ce que je voudrais faire, ce que je voudrais contempler, je ne le contemple pas, je ne l'aime pas. Et ce que je voudrais ne pas faire, mon corps m'oblige à le faire. Il y a une espèce de dualité entre la chair et l'esprit. Cette dualité... c'est saint Paul, mais tous les philosophes, c'est leur problème. C'est tout le problème de Pythagore, par exemple. Le problème de Parménide aussi. Le problème de Heidegger. Vous le voyez bien que c'est ça le problème de Heidegger aussi. Il faut séparer le ceci du est. Allez. Il y a quelque chose dans ceci qui m'empêche de saisir être. Il y a une contradiction. Et ça m'angoisse. Allez, c'est extraordinaire, vous pouvez lire Heidegger, et donc son blocage sur le Dasein, n'est-ce pas, uniquement par ses nostalgies. J'espère que vous comprenez, ou vous sentez, si vous ne comprenez pas tout, il faut au moins sentir qu'il y a quelque chose. Alors, il y a un grand tragique. La nostalgie, c'est ça. Le tragique de la dualité substantielle âme-corps. Ça, c'est sûr. Et alors, du coup, ça va se traduire comment ? Par le fameux sentiment métaphysique de vide. Je me sens vide. Je ne suis pas plein. Mon âme ne remplit pas mon corps. Du coup, mon intelligence sent le vide. Voyez ? Alors, j'avais dit, on en était encore ici, je m'aperçois. Bon, alors, donc pour la sentiment de mort, ça, d'accord. Vous savez bien, dès que vous rencontrez un artiste, s'il est pleinement artiste, il est possédé par l'odeur de mort. C'est curieux d'ailleurs. Vous connaissez un petit peu des artistes ou pas? C'est assez impressionnant. Descriptivement, s'il est vraiment artiste, s'il n'y a que ça, parce qu'il faut le voir dans les caricatures, surtout, hein, c'est-à-dire celui qui n'est qu'artiste. Eh bien, celui qui n'est qu'artiste, toujours insatisfait. Et puis, finalement, pour se réaliser dans l'art, il faut qu'il tombe dans la folie. À ce moment-là, il retrouve son art, il se retrouve dans son art, il se retrouve dans l'insatisfaction folie, descriptivement. Ça, vous le savez tous, hein, voyez ? Je vais faire je vais faire une folie. Je vais faire quelque chose qui, pour moi, est une folie. Bon, je reviendrai, je vais me convertir, ne vous inquiétez pas, mais pourquoi il y a une insatisfaction tout le temps ? Insatisfaction folie. Vous y êtes ? Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire, tout ça ? C'est vrai qu'il y a... Ah, le contemplatif a une... Je bute en moi sur quelque chose qui n'est pas rempli par l'âme spirituelle. Mon esprit n'informe pas totalement mon âme et mon corps. Vous voyez ce qu'on disait quelquefois à Lourdes à propos de la découverte du corps spirituel. Dans mon origine, ma première cellule était un corps spirituel. C'est la seule fois. Et j'ai une nostalgie du corps spirituel. Et c'est ça la vie contemplative. Au ciel, mon corps spirituel me permettra de recevoir la lumière de gloire. Vision béatifique. Et j'ai une nostalgie. Et là où mon esprit n'informe pas complètement toutes les cellules de mon corps, fondamentalement, spirituellement, de manière contemplative, il y a un vide. Quelque chose, je me sens vide, hein, de manière contemplative, mon corps est quelque chose de vide. Et du coup, en effet, comme vous pouvez le voir, il y a ce problème ici, donc, de la peur qui apparaît. Il y a une odeur un peu de oui, on se dit, comment, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je suis, il y a une espèce de peur. Voyons les autres. Vous pouvez dire, quand je dis peur, vous sentez bien, hein, il y a angoisse. C'est ça l'angoisse, quelque part métaphysique. Là encore, eh bien, Heidegger est en plein là-dedans. Alors, vous avez ensuite le corps, la dimension corporelle. Nous avons un corps qui, en relation avec les autres corps, nous faisons partie de la nature. Il faut qu'on respecte les animaux, les plantes, les autres hommes, le cosmos. Nous sommes responsables de la nature et le petit signe que nous sommes vraiment responsables, ce n'est pas une imagination, c'est que nous respectons notre corps. C'est pour ça que, par exemple, quelqu'un qui est impur avec son corps et qui respecte au maximum les animaux, c'est un menteur. Le signe du respect de la nature dont nous sommes responsables, les animaux, les plantes, etc., le cosmos, etc., le signe, c'est la manière dont j'use mon corps. Mon corps, j'en use avec respect, avec dignité. Et c'est très curieux. Moi, c'est un truc que je trouve ça très curieux, que plus notre société française est impure, plus il y a des animaux dans la maison. Ça, c'est extraordinaire.
extraordinaire comme mensonge. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Je réfléchissais à ça, n'est-ce pas? Alors, effectivement, j'ai un appel profond à me dépasser. J'ai un appel profond, si vous voulez, à me sacrifier, mais j'ai peur de la souffrance. Vous voyez? J'arrive pas à me dépasser pour la nature, j'arrive pas à me dépasser pour le cosmos, j'aimerais pas me dépasser pour l'univers. Alors, du coup, je me rabats sur des êtres inférieurs. Et oh, pas mon petit chien, mon petit caniche, machin, nounou. Viens lécher ma main, viens lécher mon pied. Et oui. Mais peur de la souffrance, en fait, c'est une panique, vous voyez, la peur de la souffrance. J'ai un appel à me dépasser, vous voyez, mais j'ai peur de la souffrance. Dans la première cellule, Dieu était présent comme créateur de mon corps, enfin, dans mon corps de l'âme spirituelle, et du coup, à travers mon corps, il y avait cette présence créatrice de Dieu par rapport à tous les autres corps, vous voyez bien. Donc mon corps étant, et à travers la présence, l'omniprésence de Dieu, est en relation réelle avec tous les autres corps dans ce premier instant-là, vous voyez. Donc il y a un appel dans mon corps à me dépasser dans la nature, et à recevoir toute la nature dans mon propre corps. Ça va? Donc j'ai toujours cet appel, mais j'ai peur de la souffrance. Alors du coup, je m'arrête. Alors à cause de ça, eh bien, vous le savez, il y a un sentiment d'angoisse. Alors c'est ici, c'est l'angoisse, c'est pas la même angoisse, hein. Il faut qu'on repère ici, c'est pas tout à fait. Il y a du coup un ébranlement profond. C'est qu'effectivement, aussitôt, quand je me retrouve dans mon corps, avec mon âme spirituelle, je me retrouve dans une espèce de nuit. C'est vrai, si vous regardez bien en dehors de l'électricité, et puis vous rentrez, imaginez que vous êtes au milieu du cosmos là-bas, vous êtes dans la nuit. N'est-ce pas? C'est un petit peu l'impression métaphysique de nos origines, ça. Alors, du coup, c'est une angoisse qui apparaît. C'est une angoisse qui va exiger, d'ailleurs c'est une angoisse profonde, hein, et très profonde puisqu'elle est corporelle. C'est la mémoire ontologique qui génère cette angoisse. Et donc, tandis qu'ici, l'angoisse, c'est l'intelligence qui génère l'angoisse. L'angoisse de la vie contemplative. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça qu'ici, alors là, la neuroleptique, ça fonctionne à fond. Hein. Plus vous avez d'animaux à la maison, plus il y a de neuroleptique. Hein. Ah oui, ça c'est certain. Alors ensuite, alors tout est tragique. Surtout si vous êtes cyclotimique. Cyclotimique, c'est ça. Cyclotimique. Ça doit être tragique. Tout est tragique. Alors, mais non. De temps en temps, il faut prendre la petite épingle, tu pousses, tu mets dans le ballon, et c'est extraordinaire cette histoire. Mais il faudrait regarder les religions en fonction de ça. Toutes ces nostalgies vont développer des mythiques religieuses différentes. Mais c'est des religions qui vont partir de nous et de nos limites, de nos nostalgies, de nos angoisses. Ce ne sera pas les mêmes types de structures religieuses qui viennent de l'homme. Il y a qu'une structure religieuse qui ne vient pas de l'homme et qui vient donc du Créateur lui-même, qui descend lui-même pour révéler lui-même ce qu'il est en lui-même. Et ça, ce serait une petite étude très intéressante à faire, de faire une comparaison. D'ailleurs, je crois que je l'avais fait une fois. On avait essayé de le faire une fois, il me semble ici. De faire cette petite analogie entre les nostalgies métaphysiques et puis les diverses structures religieuses du monde. Dans nos diverses cultures. Voilà. Alors, ensuite, nous avons... Ah, si on vit au niveau de la vie, l'âme. Alors, à ce moment-là, quand on vit, qu'est-ce qui vit en nous? C'est qu'est-ce qui vit? Notamment à l'origine, mais à la fin aussi. Donc, l'alpha et l'oméga donnent l'identité. L'instant présent aussi, il est pleinement en acte. Qu'est-ce qui vit humainement? C'est l'intelligence qu'on pense, c'est l'amour qui est actué, et puis c'est la mémoire qui est enlevée entre son origine et sa fin, et qui s'épanouit dans sa liberté du droit. Voilà les trois manières de vivre pour l'homme. Il y a trois puissances dans cette vie. Alors, on en était où? À la vie. Alors, du coup, effectivement, on tombe dans une espèce de mystique subjective. Alors, il y a cette capacité infinie de contempler. On sait qu'on a une capacité infinie de contempler, de vie contemplative, de contempler la vérité, n'est-ce pas? Et une capacité aussi infinie d'aimer. Et faire que notre volonté soit pleinement ouverte pour que soit l'autre qui m'attire, qu'on puisse rentrer dans l'attraction vis-à-vis de quelqu'un d'autre. On a une soif de vérité incroyable. Bon. Mais, vous sentez bien que dans le premier moment, Dieu qui est lumière, Dieu qui est amour, Dieu créateur, qui me donne ma vie et qui est au fond de moi de manière vivante, il remplit totalement, même si ce n'est pas surnaturellement, il remplit totalement mon intelligence et mon amour, et quelque part, cette lumière me fait comprendre dès le départ dans mon âme spirituelle que je peux contempler à l'infini et que je peux aimer à l'infini. Dès le départ, je le constate par expérience. Et ceci, je le garde encore aujourd'hui, même si je ne le vis plus. Je ne suis plus en relation avec celui que j'assimile par ma vie contemplative, avec celui qui m'attire par ma vie d'amour, avec celui en lequel je vis par ma mémoire incarnée. N'est-ce pas? Alors ça, par ma liberté dans l'ordre du don. Alors du coup, je me sens seul. J'ai une solitude. Je me sens tout seul. C'est vrai, c'est sûr, on doit se sentir vachement seul. On doit se sentir vachement seul dans la première cellule. À un moment donné, sentiment de solitude. Voyez bien que je suis face à quoi? Je ne suis plus face à la vie divine, je suis face à ma vie. Et ma vie est toute seule. Alors, très bon, hein. C'est très très bon tout ça. Je me sens égoïste, je sens cette odeur de mort, je sens cette odeur de vie, c'est très très bon, c'est pas mauvais. C'est normal. Je sens la solitude métaphysique en moi. J'ai une odeur, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas rentrer dans la vie intérieure. Parce que s'ils rentrent dans la vie intérieure, ils ne supportent pas cette odeur de solitude. Ta physique. Si tu portes pas leur vite, on va rentrer dans des choses extérieures. Regardez, comme les gens n'aiment pas être ermites. Ils n'aiment pas ça. Ah, ils n'aiment pas ça. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. À cause de nostalgie. Et descriptivement, alors. Descriptivement, le point de vue de l'isolement. Pourquoi est-ce que, aussi, quelque part, on va s'isoler? Pour vivre intérieurement, il faut que je m'isole. Ah, il faut absolument que je m'isole, sinon je ne pourrais pas vivre intérieurement. Si je ne vais pas dans la montagne, dans une grotte, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à avoir une vie intérieure en présence des autres. Ça, c'est le résultat, quelque part, voyez bien, il faut que je m'isole. C'est pas faux, non plus, mais n'empêche que cette... Si je ne suis que dans cet aspect de ma dimension vitale, c'est ennuyeux parce que je m'isole des autres, je me coupe des autres. J'ai été coupé de la vie divine et je me coupe des autres vies. Ça va? L'autre maintenant, le point de vue donc social, familial. La coopération. Alors là, ici, la coopération. Il y a quelque chose, je pense que c'est assez évident pour vous maintenant, vous avez compris le système. Dès qu'on est dans l'éternité, c'est-à-dire dans notre fin, Vous êtes, dès que vous êtes dans l'éternité, l'éternité c'est un seul instant éternel qui traverse et qui assume, pardon, ça c'est discontinu, tous les instants créés sont intégrés, vous voyez, dans un seul instant éternel. Alors, je viens de faire ça. Un seul instant éternel qui assume tous les instants successifs. C'est ça l'éternité, quelque part. C'est schématique. Bien évident qu'on peut le regarder aussi du point de vue donc, de l'amour. Par exemple, quand vous aimez, vous sortez du temps, je veux dire. Hein. Vous avez une expérience d'amour, d'extase, vous êtes entièrement pris, vous regardez votre montre, ça durait quoi, 30 secondes ou... Merde, ça durait 8 heures. Hein? Ou l'inverse. Ça a duré longtemps. Puis pouf, vous voyez que ça a duré à peine 5 secondes. Et on, l'éternité, lorsqu'on rentre dans le point de vue de l'amour, il y a quelque chose du temps en amont et en aval qui est assumé dans un seul instant. L'éternité, c'est ça. C'est une propriété de l'amour qui nous lie. L'éternité est une propriété de l'amour humain, spirituel et divin en même temps. Et voyez bien qu'ici, il y a quelque chose, c'est que dans la première, dans le premier moment de notre vie, c'est la vie du Père, donateur de vie, c'est sa vie, et sa vie, elle est dans l'éternité. C'est une vie, quelque part, qui procède de l'éternité. Il y a une odeur d'éternité dans la vie divine qui anime mon âme spirituelle dans ma première cellule. Il y a la communication de la vie, donc un contact vital avec mon Père créateur. À cause de quoi, il y a... Je suis en même temps dans l'instant, mon premier instant d'existence, et en même temps, comme une espèce de contact vital, mais lointain peut-être, mais réel, avec l'instant éternel de la vie interne du Créateur. Et il n'y a pas de séparation entre les deux. L'éternité et le temps sont comme une seule impression. L'instant présent et l'éternité divine. Dans le premier moment où je suis créé, vous comprenez ça? C'est difficile, j'ai du mal à l'expliquer, mais j'essaie de voir si vous comprenez. Je ne sais pas si vous arrivez à piger. En tout cas, il est sûr qu'il y a quelque chose qui fait qu'à partir du moment où je suis seul avec moi-même, et que c'est à moi maintenant d'aller vers la vie éternelle, grâce à tous les instants ultérieurs, n'est-ce pas, pour retrouver mon origine grâce à ma fin, à ma finalité, alors à ce moment-là, je suis quand même dans ce problème qui est là. Il va falloir que je passe par moi et par tous les instants qui originent les autres, n'est-ce pas? Il va falloir que je passe par moi et par tous les autres. Je vais être obligé de passer par discontinu pour arriver à l'unité. C'est le problème. Nostalgie du dépassement de la succession temporelle. Dépendance, spontanéité vitale. Dépendance, spontanéité vitale. Quand vous êtes en lien avec la vie divine du Créateur, du Père qui vous donne la vie au départ, vous êtes en même temps dépendant de sa vie et en même temps dans un état de spontanéité absolue. Tandis qu'après, vis-à-vis des autres, quand vous vous retrouvez tout seul, et que vous n'êtes pas un saint, parce qu'on le devient à la fin, progressivement, n'est-ce pas? Que vous dépendez des autres. Mais si vous dépendez des autres, vous devez leur obéir. Et du coup, vous avez perdu votre spontanéité. Si vous voulez être spontané, vous ne dépendez plus des autres. Et il commence à y avoir quelque chose de contradictoire, parce que dans ma première cellule, la dépendance et la spontanéité vitale sont une seule chose. Je dépends de Dieu, mais du coup, je suis dans un état de spontanéité. Je suis moi-même, absolument. Je suis dans un état de spontanéité totale. Dans une union avec tous les autres, parce que je suis en union avec le Père Créateur de tous. Et avec lui-même. Vous voyez? Parce que après, il faut que je m'affronte aux autres. Il faut que j'obéisse à l'autre. Il faut que j'obéisse à mon Père. Il faut que j'obéisse à ma mère. Je dépends d'eux. Je ne peux pas être spontané. J'ai envie de prendre la banane avec ma main. Non, je prendrai une fourchette et un couteau. Bon, c'est pas très spontané, ça. Alors, on a cette nostalgie entre la dépendance et la spontanéité vitale. Et ça, c'est pourquoi ? C'est parce que, justement, avec Dieu, c'est dans un instant qui unifie tous les instants, un instant éternel qui unifie tous les instants temporels, parce que quand c'est dans les instants successifs, de temps en temps, c'est dépendant, dans trop d'autres moments, c'est spontané. Et je mets en harmonie mes moments de dépendance et mes moments de spontanéité. Et c'est ça le secret de la facilité de rentrer dans un corps mystique. Il faut savoir vivre la dépendance, savoir vivre de la spontanéité. Quand il n'y a plus de spontanéité dans une famille qui est morte. Et quand il n'y a plus de dépendance, c'est une famille qui est morte. Mais quand les deux s'harmonisent, c'est une famille vivante, n'est-ce pas ? Pareil pour la société. Bon. Donc c'est pour ça que c'est très bon ce qui se passe en ce moment en France, qu'avec un pouvoir étatique étouffant, de temps en temps, on sort un mât. Bon, faut pas que ça. Seulement, faut pas que ce soit tout l'un, tout l'autre. Enfin, on revienne, je sais pas. Bon. Mais c'est justement, si c'est excessif, c'est que le point de vue de la dépendance a été excessif. Donc, bien Tintin, normal. Et on récolte ce qu'on a semé. Donc, vous voyez bien, voilà ici cette nostalgie-là que vous repérez. Alors, du coup, tu vois, le problème de la relativité, donc, alors, tout est relatif. À partir du moment où tu t'approches des questions essentielles de ta vie et que tu en parles avec l'autre, tu te trouves dans le salon, quelqu'un dit « Oh, mon fou, ça c'est pas mon problème, ça c'est relatif. » On appelle ça, quand j'étais au collège, on est les beaux-fils. Les beaux-fils, bon. Dès que c'est quelque chose de qui touche la substance, qui touche l'essentiel, qui touche le... Relatif. Il n'y a pas de vérité. À chacun sa vérité. Je ne veux pas dépendre d'une vérité, sinon tu ne seras pas spontané pour raconter les blagues. Oui. C'est, alors, la pure relativité, tout relative. Quand une société, on dit qu'il y a à chacun sa vérité, ça veut dire que c'est fini, la société est terminée, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun lien social humainement parlant. Donc on est obligé de faire des liens sociaux matériellement parlant. Mais humainement, l'humanité est morte du point de vue social, familial. Voyez bien. Alors à ce moment-là, descriptivement, c'est évident, c'est l'indifférence. Bon, maintenant il ne reste plus que l'adoration, la dimension de notre lien avec le Créateur, sur le point de vue du fait qu'on existe, de l'être, pas de la vie cette fois-ci. Alors là, vous pouvez le dire comme moi. L'exigence, là, on a une exigence encore aujourd'hui de cette immanence de la vie. Alors, je vous explique, c'est certainement quelque chose qui est très compliqué pour vous comme mot. Pas. Quand vous êtes dans cette vitalité d'origine, quand le Père qui vous donne la vie est vivant, présent, dans cette manière, vivant, présent et détermine tout, la vie comme l'être. C'est votre vie intérieure qui dépend de Dieu. C'est dans l'intérieur immanent. Manere, ça veut dire rester. In, dedans. Dieu vit et demeure en vous, dans votre vie. C'est la vie divine du Créateur qui détermine vitalement, dans sa vitalité d'éternité, votre vie temporelle dans l'instant où vous êtes créé. Et du coup, on vous dit... Pour adorer Dieu, laissez tomber votre intériorité, laissez tomber la vie, prenez l'être. Oh, j'ai envie de trouver Dieu dans la vie, moi, dans ma vie intérieure. Ben, si tu vas dans ta vie intérieure, tu ne trouveras pas Dieu. Tellement que je peux. Tu vas aller dans un point de vue de la vie, l'intériorité, top, à l'intérieur, Dieu n'est pas là. Tu trouveras ton âme, tu as pas mal. Philosophiquement, on ne trouve pas Dieu à travers l'un. Intériorité. Et on trouve son âme. Ayant trouvé son âme, on peut lancer son âme dans le Créateur. Voilà. C'est l'avantage de trouver son âme. Mais si on s'arrête là, vous voyez, l'exigence de l'immanence de la vie. Je voudrais tellement trouver Dieu par la vie intérieure. Moi tout seul, dans ma bulle, extraordinaire, petit véhicule, fantastique. L'homme réalisé. Pas réalisé, mais ceux que j'ai connus, ils n'ont rien réalisé du tout, hein, pas du tout, ils sont réalisés. Enfin, heureusement que je ne les connais pas connus beaucoup, parce que... Alors, eh bien, alors, à ce moment-là, aliénation, voilà pour la limite. Il y a une espèce d'odeur, dès que vous êtes en présence du Créateur, d'une odeur de transcendance divine. Vous voyez, une liturgie orthodoxe, donc la transcendance de Dieu, le manifeste. On vous dit, il y a une apparition, là. Oh, alors, moi, je ne veux pas aller là, je vais être, ça va m'aliéner. Vous voyez, la religion, c'est l'opium du peuple. Il y a un arrêt. Il ne faut pas que, il faut que je fasse attention à ne pas être aliéné. C'est vrai, parce qu'effectivement, si aujourd'hui, l'aspect divin vient prendre ma vie dans l'immanent, je suis aliéné, effectivement. Parce que ce n'est pas de l'intérieur de ma vie que Dieu me prend, mais il me prend dans le point de vue de l'être. C'est par le point de vue de l'être que je suis en dépendance de Dieu, que je suis déterminé par Dieu. Et dans le point de vue de la vie, non. Donc si je n'adore pas, vous voyez, si je n'adore pas, j'ai un petit problème. Or, j'ai un mal fou d'adorer. Après là, cette première impression d'origine, parce que dans la première impression d'origine, je vois que je rejoins mon Créateur par ma vie. C'est formidable. D'un seul coup, je ne le rejoins plus par ma vie, par mon âme. Alors, il y a cette nostalgie. Et si je n'adore pas, je me réfugie dans cette nostalgie, dans l'immanence de ma vie. J'essaie de trouver Dieu. En fait, c'est quelqu'un d'autre et je serai aliéné. D'où cette réaction métaphysique, ébranlement profond, qui est face à quelque chose qui m'apparaît prodigieux, quelque chose de trop vital, de trop cabodique, au sens cabode, hein, de la gloire vitale, donc un peu sensible vitalement de Dieu, il y a un moment de recul, je ne veux pas être aliéné. C'est un mouvement qui est sain, remarquez bien. Mais si je n'adore pas du tout, il n'y aura plus que l'aliénation, et donc j'abandonnerai Dieu. D'accord ? Alors, à ce moment-là, il y a un phénomène de refoulement. Vous connaissez le livre Névrose chrétienne, un livre, un refoulement merveilleux, bon, très bien. Alors, on va souffler et on aura trois quarts d'heure seulement pour reprendre à partir de ces sept ce qui se passe. Ce qui se passe dans la première cellule, dans la première seconde et la seconde d'après. Et on va essayer de repérer les 14 ébranlements de notre origine, qui explique le blocage heideggerien sur l'interrogation à la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?»